Alors, excusez-moi, je vais, pour des raisons techniques, je vais être obligé de rester assis. Alors, d'abord, ça, effectivement, il y a le truc au milieu, là. J'aime bien, d'habitude, jouer à la rockstar et parler avec le micro en me baladant, mais j'aurai pas d'écran de contrôle et je pourrai plus cliquer. Enfin, bref, je suis coincé. Donc, je vais quand même rester comme ça en chair. Alors, c'est vrai que tu m'as présenté, merci, hein, c'est sympa, comme enseignant. Je vais être dans la position magistrale. Et je sais que c'est pas désagréable, j'aime bien aussi être élève de temps en temps. Donc, on se trouve dans cette situation-là. Alors, je suis dans la situation de parler d'Europe pour utiliser du vocabulaire maison en savoir savant. C'est-à-dire que je vais parler des problèmes que pose la notion d'Europe. Alors, comme c'est un Pascal Clerc est venu me chambrer il y a un instant en me demandant quelles étaient les nuances que je faisais sur mon discours habituel. Alors il y aura des nuances, il y a même une troisième partie que vous allez certainement trouver assez hard si j'ai le temps d'arriver jusque là, parce qu'il faut que je m'arrête à 10h, hein, si j'ai bonne mémoire. Donc c'est des résultats d'une enquête qui est d'ailleurs pas, enfin d'un travail de recherche pour l'Union européenne qui est pas entièrement publié, enfin qui va l'être. Et en plus, c'est en anglais, hein, donc vous allez avoir des éléments un petit peu qui vont tout de suite vous sembler plus savants. Les apparences, en tout cas, seront pour cette légitimité-là. Alors, je me disais bien, il a un petit temps de latence. Prendre l'Europe comme une question. Alors, je suppose que je ne parle pas du tout à des naïfs, hein, et pas seulement à ceux qui m'ont subi déjà un bon nombre de fois. L'Europe, évidemment, c'est pas un donné qui va de soi. Ce que je vais d'abord vous raconter, et c'est en ce sens-là que je vais être redondant vis-à-vis d'un certain nombre d'entre vous, c'est la genèse de cette catégorie aux frontières limitées, Europe, rassurante, on sait ce que c'est, de l'Atlantique à l'Oural et du pôle Nord à la Méditerranée. Donc, de voir comment on a quelque chose qui s'est fabriqué très récemment, hein, ça date du XVIIIe siècle, la notion de continent et la notion d'Europe appliquée, comme continent appliqué, et de voir qu'il s'agit en fait non pas d'une catégorie qui ne poserait pas de problème, mais au contraire d'une question. Donc, à partir de là, c'est ce que j'ai appelé le seul vrai continent, en donnant au continent un autre mot, un autre sens, hein, que d'habitude on donne à ce mot, c'est-à-dire celui d'une grande île, d'un fait de nature qui pose pas de problème. Et pour ceux qui sont pas géographes, c'est justement pour vous éviter de vous faire avoir par la géographie, qui a sous ses allures benoîtes une redoutable mission idéologique qui consiste à naturaliser des faits sociaux, et en particulier ce qu'est une ère de civilisation, qu'est l'Europe, de le transformer en un fait de nature et de décider que, enfin, de nous faire croire que c'est quelque chose qui ne se discute pas du point de vue social, alors qu'évidemment, on s'en aperçoit évidemment avec la construction européenne constamment, il s'agit d'un fait historique, au fait social si vous préférez. Alors, pour cela, je vais aller un petit peu plus loin. C'est là où je vais vraiment faire d'ailleurs ce que j'appelle de la géohistoire. C'est dans le deuxième point, c'est celui qui me tiendra le plus à cœur, qui consiste à vous montrer d'abord les spécificités de cette production européenne et comment on a été amené à faire par un jeu de construction intellectuelle qui est lié à l'émergence de l'État-nation, ce que j'appelle le tiers spatial exclu, c'est-à-dire le fait qu'on a des entités où tout est dedans ou tout est dehors, où on n'a pas des complexités géographiques telles que l'on découvre apparemment aujourd'hui, mais qui ont en fait toujours existé, et que l'Europe avait éliminé, l'Europe au sens intellectuel du terme, hein, avait éliminé en créant ces boîtes étanches, ce que j'aime bien appeler le puzzle. Mais je ne sais pas si François Audigier a utilisé ça hier, mais il aime bien utiliser l'opposition puzzle-réseau. Les pièces qui sont comme dans tout puzzle, où on est dans la pièce, où on est en dehors de la pièce, et que qui s'emboîtent l'une dans l'autre, sans avoir la possibilité d'être entre les deux, d'être dans une position intermédiaire, etc. Voilà, et puis de voir comment, ça peut vous intéresser, comment on peut réfléchir à l'Europe actuelle, en réfléchissant d'ailleurs à une commande, hein, qui est celle de l'Union, d'un travail de recherche pour l'Union européenne, c'est le troisième point. Donc, Alors j'ai mis évidemment cette figure archétypique du XVIe siècle hein, pour dire l'Europe est une personne, c'est-à-dire un être social, quelque chose qui a une entité et une histoire. Et par ailleurs, vous savez que cette... Moi, je vois très bien mon écran, il n'y a aucun problème. Je lis jamais de notes, alors j'ai pas de souci. Mais c'est vous qui voyez plus rien, non?
Je ne sais pas, moi, je peux me mettre
comme vous voulez. Bon. Le fait en particulier que les limites orientales de l'Europe soient floues est évidemment quelque chose qu'on relève souvent, mais c'est surtout sur cette idée d'entité humaine hein, qu'est l'Europe que je voudrais insister. Alors pour ça, je vais commencer par quelque chose de très très simple, hein, qui est simplement lié au planisphère, sur le fait qu'on est constamment dans une opposition extrêmement simple qui consiste à se penser au centre du monde. Alors, si on prenait l'histoire de la cartographie chinoise, hein, qui n'est pas notre objet puisqu'on parle d'Europe, mais qui s'y prête très bien, hein, si jamais ça vous intéresse, je vous signale qu'elle est d'ailleurs comme cette carte australienne orientée au sud. Vous avez toujours une construction qui fonctionne avec un centre, et ce centre est un nous, et puis il y a une opposition hein, qui est ce qu'on met tout autour. Alors remarquez que pour les Australiens, qui avaient fait, c'est les chambres de commerce australiennes hein, qui avaient fait cette carte à l'origine parce qu'ils en avaient marre d'être en bas à droite dans les cartes, et ça leur posait des problèmes aux investisseurs, donc c'est une carte qui a plus de 20 ans. Donc vous voyez, des questions très très pratiques de représentation mentale, et il s'agissait bien toujours de dire nous sommes au centre, et ça marche très bien avec l'Australie, hein, on a bien une périphérie des autres qu'on peut organiser tout autour à partir de ce centre du monde qu'est l'Australie, ce que vous saviez peut-être pas. Donc on est dans un modèle, je vais partir d'un modèle extrêmement élémentaire, c'est d'ailleurs un modèle commandé par Jackie, qui consiste à penser ici ailleurs, c'est-à-dire aussi nous les autres. Ça a d'ailleurs des connotations avec maintenant et à d'autres époques, hein, mais je vais peut-être pas me lancer là-dedans maintenant. En tout cas, c'est sur l'opposition entre l'ici et l'ailleurs que je vais construire cela, et j'insisterai dans le deuxième point sur le fait que c'est vraiment quelque chose de très important. Moi j'appelle ça les deux distances, la distance de rapprochement, de construction du lien social, et entre autres par la parole, par la langue, hein, la langue commune, et d'autre part, au contraire, l'altérité, la création de quelque chose qui est un au-delà, qui est un ailleurs, et ça on a dans toute pensée du monde. Et pour penser l'Europe, il faut avoir ce schéma en tête, je trouve, parce que l'Europe c'est notre ici. Donc, si vous prenez des cartes tout à fait classiques et banales, vous avez tout à fait une construction où notre ici est en position parfaitement centrale, en gros au milieu, bien sûr, c'est au centre du monde et en haut, quelle que soit d'ailleurs la projection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous rappelle que on l'a depuis très longtemps, d'ailleurs, il y a même des travaux, il me semble, de l'INRP qui avait travaillé là-dessus, on sait depuis très longtemps que le méridien de Greenwich, c'est le méridien d'origine, le méridien zéro, tout simplement parce qu'il est au milieu. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et quoi, si vous posez la question à vos élèves, c'est très probablement la réponse que vous aurez, parce que le plus souvent, on utilise des planisphères du type de celui, alors avec des nuances près, hein, on peut utiliser des projections un peu plus compliquées maintenant, mais de toute façon, on met le méridien de Greenwich en position médiane et centrale. Donc, vous avez là quelque chose qui est redondant intellectuellement, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on montre une image avec un centre, avec des bords, et ensuite va expliquer que c'est le méridien d'origine. Bon, bah, on n'a même plus à se poser la question. Alors par ailleurs, on peut très bien dans un cours historiquement expliquer que c'est un choix en 1876 pour créer, parce qu'il a fallu créer le temps universel, donc il fallait bien avoir une origine des 24 heures des fuseaux horaires, et donc on a choisi non pas le méridien de Paris mais le méridien de Greenwich. Je vous signale que la France n'a adopté le méridien de Greenwich qu'en 1911 dans le cadre de l'entente cordiale d'ailleurs, et elle l'a fait parce qu'elle a résisté jusqu'au bout, espérant que le méridien d'origine soit bien le méridien de Paris. Bon, mais c'est un détail, et ça n'aurait pas beaucoup changé la ligne de partage de date hein, qui se passe au milieu du Pacifique, c'est-à-dire qui correspond aux bords verticaux de nos planisphères. Alors, c'est un choix historique, qui aurait pu être n'importe quel méridien, hein, géométriquement n'importe quel méridien fait l'affaire, mais c'est un choix historique lié à la prééminence de l'Europe à la fin du XIXe siècle, quand elle a eu besoin, parce que le monde commençait à sérieusement exister, avoir une horloge mondiale, donc avoir un temps universel, donc un méridien. Alors, j'aime bien me citer cette carte qui relève d'un manuel. Alors, c'est marrant d'ailleurs parce que je vois que dans le titre, j'ai mis 1901 et puis que le bouquin de Schrader est 1898. C'est un livre qui a été réédité plusieurs fois, donc j'ai dû utiliser deux versions différentes. Ça n'a pas d'importance. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès fin 19e, début 20e, un manuel d'école primaire supérieure. Mais on le retrouve, cette figure, dans bien des cas. Et il s'agit tout simplement, puisque j'ai laissé le texte puisque on m'a demandé de mettre le PowerPoint sur le site. J'ai laissé le texte. Si vous regarderez dans le texte, on apprend des tas de choses passionnantes, entre autres que la France, mais vous pouvez traduire l'Europe, est située dans la zone tempérée la plus favorable au développement de la civilisation, ce qui est intéressant par ailleurs, mais c'est un autre point et il faudra me faire revenir une autre fois pour parler des tropiques. Je ne vais pas développer ça. Et ça remonte à la géographie grecque, d'ailleurs, l'idée de tempérée civilisée. Et d'autre part, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est que la France, l'Europe, est au centre des terres émergées. C'est pris au premier degré, hein, c'est considéré comme penser ce on est au centre, et évidemment ça explique qu'on soit au centre du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on a inversé le raisonnement. L'Europe a construit le monde autour d'elle, et donc, évidemment, elle est le centre au sens génétique, hein, du centre périphérie. Et donc, le reste du monde a été construit comme une périphérie autour de l'Europe, ce qu'on va voir d'ailleurs dans le découpage du monde en continent. Et en réciproque, on prend le résultat pour un fait. C'est tout à fait dans ces logiques géographiques que je vous expliquais. L'Europe est matériellement, hein, dans le découpage des terres émergées, en tout cas si on en suit ce vieux manuel, et si on en suit la pensée géographique du début du XXe siècle, l'Europe est naturellement au milieu du monde, ce qui est donc logique qu'elle en soit le centre. Vous voyez, on a inversé le raisonnement, le centre construit le monde, et en fait, il est au centre du monde, donc c'est logique qu'il le domine. Alors, ce phénomène, hein, pour les planisphères, c'est un élément important. On a toujours l'idée que le monde a des bords avec un centre. Alors, j'ai mis le mien, bien sûr. Mais enfin, c'est vrai qu'une tour de ce type-là, ça colle à Lyon. Vous avez une position, cette position de centralité, hein, qui est un élément tout à fait logique et important. Et quand on réfléchit à la mondialisation, car je conclurai un peu là-dessus, c'est mon job en gros de faire la géographie de l'entité du niveau mondial, eh bien c'est évident que ce type de projection est un masque parce qu'il nous empêche de penser le monde comme quelque chose de totalement bouclé, comme quelque chose qui n'a plus à proprement parler un centre, dont le centre est réticulaire, et j'emploierai pas le mot de triade que j'aime pas, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, d'où l'intérêt d'ailleurs de ce type de projection, parce que ça nous permet d'éviter d'avoir des positions centrales. Je vous la remets un instant, parce que je vois que vous la regardiez attentivement. Alors, j'en viens maintenant au fait que l'Europe, on peut la définir de manière tout à fait classique comme l'une des cinq parties du monde. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'on l'aurait défini dans le même manuel de Schrader que j'évoquais. Comme le manuel est construit sur les trois années de primaire supérieure, c'est très simple. C'est première année le monde, deuxième année l'Europe, troisième année la France. Donc le monde, c'est d'abord les cinq parties du monde. Alors, ce qui est un fait qui m'amuse, je laisse ça plutôt à mes petits camarades de l'équipe Ego pour réfléchir à cette question, c'est de savoir pourquoi, à partir des années 1950, à peu près, dans les manuels, l'expression « partie du monde » est devenue l'expression « continent ». Mais peu importe, hein, je vais les prendre comme synonymes à peu près depuis le XVIIIe siècle, même si, dans le détail, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, en France, on a appris depuis le XIXe siècle qu'il y a cinq parties au monde, auxquelles j'ai mis des couleurs archétypiques, hein, jaune, noir, rouge en particulier, parce que ça correspondait, et blanc, bien sûr, parce que ça correspondait aussi, je vous ai épargné ça, mais à ce qu'on appelait les quatre races. Hein, le fait qu'il y ait, c'était dans les manuels scolaires jusqu'aux années 60, moi je l'ai appris, qu'il y avait une race noire, jaune, blanche et rouge. Et ça correspondait aux quatre parties du monde, la cinquième, on lui fera un sort tout à l'heure. Donc, ces cinq parties du monde, pour les Britanniques, elles sont sept, parce qu'ils découpent l'Amérique en deux, et parce qu'ils n'oublient pas l'Antarctique. Bon, mais peu importe, après tout, la logique est la même. C'est des choses sur lesquelles on s'interroge peu, si ce n'est pour les penser comme des îles. Donc, je vous épargne les définitions du mot « continent », mais en général, c'est des terres en continu, c'est ça, d'où vient le mot continent, la continuité terrestre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de, ça se termine lorsqu'il y a une discontinuité maritime, importante évidemment. Alors ces îles, ces grandes îles, hein, en fait, elles ont une histoire et cette histoire, elle remonte au père de l'Église. Donc, je le disais il y a un instant que j'allais faire un peu de catéchisme. Donc, je vous allais avoir d'abord un peu de patristique. Alors, en effet, c'est dans le travail des pères de l'Église, en particulier d'Isidore de Séville, qu'il y a ce travail intellectuel extraordinaire qui consiste à faire la synthèse d'une lecture littérale du texte biblique, d'une part, et de connaissances qu'on pouvait d'ailleurs avoir dans l'Europe naissante, c'est-à-dire l'Europe médiévale, des connaissances antiques. Et donc, une lecture littérale du texte biblique, d'une part, reprend une géographie issue des Sumériens, dans lequel, monde de pensée dans lequel s'inscrivait évidemment le texte biblique, d'une galette plate entourée d'un océan. Donc, c'est un grand O, qu'on va couper en trois. Et on reprend trois mots antiques qui ne désignaient pas des parties du monde, Asie, Europe, Afrique, mais on les sépare par deux barres qui forment comme un T. Donc on appelle ces mappements médiévaux des T en haut. Alors pourquoi couper en trois, ce qui n'est pas du tout antique, hein? Eh bien, pour respecter l'histoire... Alors, ouais, là-bas, vous avez un excellent appareil de projection, les couleurs ne sont pas trahies. On reprend dans l'histoire du texte biblique, alors Genèse livre 9, vous avez une histoire de diffusion à la surface de la terre qui est celle des fils de Noé. Donc les trois messieurs que vous voyez là sont par ordre d'apparition Sem, Japhet et le petit dernier Cham. Donc pour faire plaisir à Pascal, je raconterai l'histoire de Cham. Et ces trois fils de Noé, évidemment, ils vont repeupler une terre qui avait été vidée de toute humanité, comme d'ailleurs les animaux. Enfin, on a moins de détails sur la diffusion des animaux, mais on a du détail sur la diffusion de Sem, Japhet et Cham. Alors, on a non pas des orientations, car nord, sud, est, ouest, qui sont des mots vikings, n'apparaissent évidemment pas dans le texte biblique, mais même les mots antiques, levant, couchant, septentrion, midi, n'apparaissent pas véritablement. Ce que l'on a, parfois levant et couchant, mais pas dans cette partie du texte, ce que l'on a, ce sont des noms de lieux, c'est-à-dire des listes, comme il y en a souvent dans la Genèse, mais pas des listes de personnes, là, des listes de villes, ou de lieux, hein, qui sont pas forcément des grandes bourgades. On peut pour certains les localiser, pour beaucoup c'est incertain, mais ceux qu'on peut localiser nous donnent pour Sem des localisations plutôt mésopotamiennes, Babylone par exemple, pour Japhet des localisations plutôt anatoliennes, et pour Cham des localisations plutôt égyptiennes. Donc si vous en tirez une conclusion, Sem est parti vers l'est, Japhet vers le nord-ouest et Cham vers le sud-sud-ouest. Même si vous ne localisez pas forcément au mont Ararat, mais en gros, quelque part en hauteur au-dessus du croissant fertile. Donc, vous avez bien une diffusion, et si on fait une lecture littérale, ce que, évidemment, les pères de l'Église faisaient, si on fait une lecture littérale de la Bible, ça nous donne des directions et des parties du monde, hein, que l'on peut avoir, Sem devenant de ce fait l'Asie, Japhet l'Europe, et Cham l'Afrique, en reprenant trois mots latins qui désignaient, dont deux d'entre eux sont d'origine grecque, en particulier Europa. J'ai oublié, tiens, je voulais mettre une représentation de l'enlèvement d'Europe, d'origine du mot, hein, c'est une princesse phénicienne, et la légende mythologique d'Europe, enlevée par le taureau blanc de Zeus, qui va de Phénicie, du Liban, en Crète. Bon, je raconterai quand même pas ce qu'ils ont fait en Crète. Apparemment, c'était pas un viol, hein. On va pas dire que l'Europe, ça en partirait mal dans notre histoire. Donc, vous avez une histoire qui, pour les Grecs, effectivement, était une forme de reconnaissance, on peut dire, dans la mythologie, de la dette envers les Phéniciens, et en particulier de l'alphabet. Mais qui désignait fondamentalement la rive occidentale de la mer Égée. Hein, le monde grec, c'est d'abord la mer Égée, c'est pas la péninsule des Balkans, c'est la mer Égée. Donc la rive occidentale s'appelait Europa, enfin Europée d'ailleurs en grec, et Asie, à l'Asie pour la Ionie, pour la rive orientale, l'actuel littoral turc. Donc c'était fondamentalement ça, l'opposition Europe-Asie, auquel alors les latins l'ont pris dans un sens toujours de direction, ça n'a pas de sens en sens de découpage du monde avec des limites, hein, c'est pas du tout comme ça qu'on pense la géographie, mais comme des climats, comme on dit en grec, c'est-à-dire des angles, et qui sera tout à fait repris par la cartographie arabe contemporaine du Moyen-Âge, qui va ensuite, à partir de la Renaissance européenne, devenir vraiment des découpages du monde en reprenant cet héritage antique. Mais avant, je voudrais qu'on analyse un petit peu ces cartes Ténaro dans lesquelles on a notre Europe. Entre autres, pour vous rappeler une chose, c'est que sur ces maps mondes, vous avez généralement une localisation, je vous le remets là, du paradis terrestre. Puisqu'il est terrestre, il fallait voir son lieu ou le lieu où il avait été. Hein, ça ne veut pas dire qu'il existait encore. Donc on a mis Adam et Ève. Ce paradis terrestre, il est situé, parce que là, le texte biblique le situe tout à fait à l'extrême levant. Pour reprendre un titre d'un vieux film d'Elia Kazan, on sait très bien, et c'est biblique, qu'à l'est d'Éden, il n'y a rien. Dans le texte biblique, c'est là qu'est envoyé Caïn, hein, c'est-à-dire justement le néant. Donc, à l'extrême est, hein, vous avez le paradis terrestre, c'est à l'extrême est de la terre habitée, ce qui explique pourquoi vous utilisez constamment, pour disposer une carte dans le bon sens, le mot « orientation ». Hein, l'Orient, c'est la direction de la carte, hein, parce que les cartes médiévales étaient à l'est et que l'on marche vers l'est. C'est la position de la plupart des églises. Hein, c'est pas canonique, c'est pas une obligation, mais enfin, le plus souvent, les églises sont orientées avec le porche à l'ouest et le chevet à l'est. Hein, elles sont de ce fait orientées. Donc, bien sûr, depuis la boussole, nos cartes sont orientées au nord. Ça aurait pu être au sud, ce que faisaient les Chinois, mais évidemment pas à l'est. Hein. Donc vous avez là cette disposition, et on en a beaucoup, on en a environ 750 des maps-mondes dans lesquels on a l'Europe. Vous avez surtout l'idée importante, c'est qu'au centre de notre map-monde, il y a Jérusalem, c'est-à-dire il y a l'ancien Adam, le nouvel Adam, hein, le tombeau du Christ est évidemment le pivot, l'omphalos, le centre du monde, et à partir de là se découpent assez logiquement les parties du monde, et comme la source biblique nous donne trois sources démographiques, hein, trois origines de la population mondiale qui sont les trois fils de Noé, on nous dit rien sur leurs épouses, vous avez de ce fait ce découpage en angles, hein, c'est pas de ce point de vue-là totalement en rupture avec la géographie antique, à partir de ce centre du monde qu'est Jérusalem. Bon, je vous laisse tomber les aspects de la mer Rouge ou d'autres aspects. Alors, pour faire plaisir à Pascal Clerc, un bref passage, mais qui est intéressant surtout pour les rapports entre l'Europe et l'Afrique. Dans le texte biblique, avant que les fils se dispersent, il y a un petit épisode qu'on appelle la malédiction de Cham, qui raconte que Noé, après évidemment, avant que la population se disperse, avant que ses enfants se dispersent, avait reconstitué l'agriculture et avait donc planté la vigne, fait la première vendange et pris la première cuite. Vous avez complètement à droite de l'écran, hein, la cruche dans laquelle il y a sans doute eu le premier vin. Alors, on peut excuser le patriarche, puisqu'il ne savait pas. Donc, il a bu ce qui devait lui sembler bon. Et il dort là d'un sommeil lourd, hein, d'ivrogne. Le texte biblique, alors les traductions sont plus ou moins pudiques, dit que dans son sommeil, il s'est découvert, il a montré sa pudeur, enfin bref, ses fesses, enfin son sexe, ce que vous voulez. Mais la mosaïque de Palerme est tout à fait claire, là. Et le texte biblique raconte que Cham a été le premier à le voir, ça l'a fait rigoler. Il a été chercher ses frères. Vous voyez, Cham, c'est celui qui est complètement à gauche. C'est facile, hein. Moins ils ont de barbe, plus ils sont jeunes. Hein. Le patriarche a une barbe blanche, et puis ensuite, ils ont des barbes brunes, et moins ils ont de poils, plus ils sont jeunes. Donc Cham, il est tout jeune. Il montre son père, enfin, très précisément d'ailleurs, et les deux autres détournent le regard. C'est littéralement le texte biblique, mais il s'agit évidemment d'une Bible en images. Hein, là. Et il recouvre la pudeur du père de son manteau. Ce que ne dit pas la Bible, c'est que le père, pour l'apprendre, évidemment, ça veut dire que Japhet et Sem ont cafeté, mais enfin, c'était des aînés, et Noé, qui devait avoir le vin mauvais, a maudit, alors non pas Cham, mais les descendants de Cham, hein, en particulier Canaan. Et donc, qui était le fils aîné de Cham, et les descendants de Canaan sont condamnés à être les serviteurs des serviteurs de ses frères. Donc, c'est-à-dire de Japhet et de Sem, qui a donné le mot sémite, hein, j'ai oublié de le dire. Donc, Sem est ce qui explique que l'on ait pu, par ce passage biblique, justifier toute la traite négrière, puisque Cham va devenir l'Afrique. C'est assez amusant d'ailleurs de voir l'Afrique, c'est-à-dire Cham, noircir dans certains tableaux à partir du XVIIe siècle. Bon, mais c'est un autre sujet. Je vous signale que c'est pas spécifiquement chrétien, que c'est les premières traces que l'on a de cet usage biblique de justification de la traite négrière remontent à des communautés juives de Mésopotamie du 7e siècle de notre ère. On n'est pas remonté plus loin, mais on a des justifications de ce type-là, c'est-à-dire que les trois religions du livre ont utilisé exactement de la même façon ce passage de la Bible, hein, c'est-à-dire justifier la traite négrière. Bon. Ça va, je vous laisse tomber l'Afrique, puisque finalement on ne va plus en parler. Si j'ai mis cette figure-là, qui est tirée d'un bouquin que j'ai fait sur la géohistoire du monde, c'est tout simplement pour vous dire qu'il n'y a aucune base naturelle à ce découpage. Évidemment, ils n'étaient pas géologues. La tectonique des plaques, d'ailleurs, ne nous aide pas particulièrement. C'est d'ailleurs toujours, là aussi, c'est intéressant, parce que c'est l'inverse, hein. C'est notre vision du monde en partie qui a permis de nommer des plaques qui ne collent pas, d'ailleurs, avec les parties, les continents au sens classique du terme. Bonjour. Mais tu pouvais arriver plus tard, tu connais de mon propos. Vous avez là, tout simplement, ce que je me suis amusé à faire, c'est un trait de côte à 180 mètres, c'est-à-dire à peu près le niveau, on ne sait pas si c'est quelque part entre 150 et 200 mètres en dessous du niveau actuel, de la dernière glaciation, c'est-à-dire il y a 20 000 ans. Alors, en fait, c'est faux. Les morphologues ne se risquent pas à tracer une carte, et je le regrette bien, même si c'était en présentant comme hypothétique. Il est bien évident que la mer Rouge et la mer Méditerranée étaient à ce moment-là des mers endoriques, c'est-à-dire fermées, sans apport d'eau externe, par le détroit d'Aden ou par Gibraltar. Alors qu'actuellement, ces mers sont totalement déficitaires. Hein, l'évaporation est extrêmement forte, surtout dans la mer Rouge, mais également en Méditerranée. Donc si vous faites du bateau et que vous passez à Gibraltar, vous savez qu'il y a un courant très très fort de l'Atlantique pour remplir constamment la Méditerranée. Alors évidemment, si ces mers étaient endoriques, elles étaient encore beaucoup plus basses, hein, que probablement la mer Rouge n'existait pas. Ou alors ça ressemblait à notre mer morte actuelle, hein, quelque chose de ce type-là. Donc, en fait, il y avait une continuité territoriale, et ça a été vrai dans une grande partie de l'histoire depuis plusieurs centaines de milliers d'années, où il y a une grande île, hein, qui est l'Eurasafrique, qui est un ensemble en continu, ce qui explique d'ailleurs la diffusion de l'espèce humaine jusqu'à la dernière glaciation, où ce niveau marin est encore plus bas, ça permet de passer en Australie et en Amérique. Mais pour dire qu'il n'y a aucune... Vous voyez qu'on a tendance à imaginer un découpage de l'Europe et par rapport à l'Afrique, et de l'Afrique par rapport à l'Asie, en fonction d'un trait de côte tout à fait actuel et tout à fait conjoncturel. Alors, point important, j'abandonne mes origines médiévales du mot « Europe » et du découpage de cette partie du monde pour dire qu'il y a un moment extrêmement important qui se produit au XVIe siècle avec la pensée de l'Amérique. Alors non pas l'arrivée de Colomb, qui d'ailleurs lui ne l'a jamais pensé comme une partie du monde, mais le fait qu'à partir d'écrits de gens qui l'ont vraiment pensé comme une nouvelle partie du monde, et de ce point de vue-là, c'est pas absurde que ça s'appelle, ça soit un hommage à Amerigo Vespucci, qui a été un des premiers, hein, qui était un brillant intellectuel, là, c'était plus que Colomb, du début du XVIe siècle, hein, un homme proche des Médicis, et on a à ce moment-là la conceptualisation d'une nouvelle partie du monde. Alors je vous ai mis la première carte, celle qui a été faite à Saint-Dié en 1507 et qui justifie qu'il y a un festival de géographie à Saint-Dié chaque année. Vous avez sur cette première carte, on a écrit America, hein, c'est une invention dérivée en latin bien sûr, le chanoine Vautrin prélude, évidemment, l'a écrit en latin, qui est écrit dans le petit cartouche, hein, qui est au large de ce qu'est l'actuel Brésil. Et vous avez cette opération qui est effectivement le fait qu'on fait le lien avec le découpage Afrique-Asie-Europe, d'une part, donc le texte biblique, et d'autre part qu'on introduit une nouvelle pensée du monde qui, lui, est en rupture. Hein, une nouvelle pensée qui, elle, pardon, est en rupture avec le texte biblique. C'est très important parce qu'on a là une opération de sécularisation de ces découpages du monde qui signifie en même temps qu'elles ont pu être sauvées. Parce que je pense que si c'était resté évidemment une lecture littérale du texte biblique, ce serait une curiosité pour érudits aujourd'hui, mais on n'utiliserait pas du tout ces mots à l'école pour désigner le monde en parlant d'Europe, d'Afrique ou d'Amérique. Donc on a là une opération qui est l'équivalent, enfin qui participe à cette grande rupture intellectuelle du XVIe siècle, qui est un moment de transition fondateur, hein, de rupture même plutôt fondatrice dans la pensée scientifique européenne. C'est un pléonasme. Et cette rupture, c'est une rupture qui à la fois reprend les héritages chrétiens et judéo-chrétiens d'une part et antiques d'autre part, mais qui en même temps les transforme et de ce fait les laïcise. Et là c'est très important, c'est totalement lié à une pensée du monde que l'Europe construit, donc est obligée de saisir intellectuellement, et dans lequel elle va créer des catégories de découpage de l'espace, hein, que sont ces parties du monde, mais qui sont en même temps qu'ont cet héritage qu'on a médiéval, qu'on a vu et qu'on a, c'est important, oublié, de manière à pouvoir le penser comme un fait de nature et comme un fait géographique apparemment neutre. Alors, ce découpage de cette pensée du monde, c'est d'ailleurs la couverture du dernier bouquin que j'ai fait, je l'ai utilisé parce que je la trouve particulièrement significative. Vous avez là, ce théâtre du monde, ça signifie un atlas, hein, son contemporain à Ortelius. Il y a deux grands cartographes flamands à la fin du XVIe, Ortelius et quelqu'un dont j'ai déjà cité le nom, Mercator. Mercator, lui, va faire lui aussi un livre qui est un recueil de cartes, mais en couverture, il met le géant biblique Atlas, et c'est qui est à l'origine de notre mot Atlas. Hein. Bon, donc là, c'est encore un théâtre du monde. Et ce théâtre du monde, vous avez tout en haut, je l'ai cerné évidemment de blanc, une dame qui est en position, ce sont toujours des femmes, hein, les continents, une dame qui est en position de pouvoir sur un trône avec un sceptre qui tient la croix sur le monde, entourée de deux globes, hein, un céleste, un terrestre. On est typiquement une situation de pouvoir telle que l'Europe se pense à la fin du XVIe siècle. Elle est entourée de l'Afrique. Alors l'Afrique, vous voyez, est sauvage, enfin je veux dire par là qu'elle est peu habillée, c'est ce que ça signifie, elle est par ailleurs dans une région chaude, hein, on voit le soleil autour de sa tête, et vous avez l'Asie qui elle au contraire est habillée, mais je vais pas beaucoup avoir l'occasion de vous parler de l'orientalisme, donc qui est une vision de l'altérité à partir de l'Europe, hein, qui est un élément important, mais c'est déjà implicite dans cette figure, et elle tient un pot d'aromates ou d'épices, hein, l'une des versions des trois parties du monde que j'ai évoquées antérieures étant, sur le plan iconographique, les trois rois mages. Mais bon, je ne vais pas vous faire un topo d'histoire de l'art, mais si vous voulez parler des parties du monde, les rois mages sont souvent très très utiles, en particulier ceux de la peinture florentine du XVe siècle. Bon, donc vous avez aussi bien sûr l'Amérique, hein, qui est apparue, dont vous voyez qu'elle est encore plus sauvage. Elle est totalement à poil, en d'autres termes, et tellement sauvage qu'elle est cannibale, puisqu'elle tient une tête à la main qu'elle s'apprête à dévorer, ce qui d'ailleurs n'était pas entièrement faux. Alors, on peut avoir apparaître ici virtuellement une cinquième partie du monde, mais je ne vais pas vous en parler avant le XIXe siècle. Ce qu'on appelait la Magellanie au XVIe siècle et qui va devenir au XIXe l'Océanie. Mais pour le moment, je ne vais pas vous en parler. Alors, je vais être très bref parce que je suis prêt à parler une journée entière là-dessus sur l'iconographie des parties du monde. Donc j'ai éliminé beaucoup d'images, l'iconographie des parties du monde dans la peinture baroque, en particulier dans la peinture jésuite, parce que, et je vais citer au moins quand même le plafond de Saint-Ignace à Rome, qui est par ailleurs une église très chouette, enfin vraiment, je ne saurais que vous conseiller la prochaine fois que vous allez à Rome de jeter un coup d'œil. Le père Pozzo était un grand théoricien de la perspective, mais surtout là, il est tout à fait un théoricien de la saisie du monde par l'Église catholique, dont le bras armé est la Compagnie de Jésus. Alors, au centre de la fresque, hein, vous avez Jésus, ce qui est logique pour les jésuites, et Jésus envoie ses rayons à Saint Ignace, le père fondateur, lequel Saint Ignace va à son tour redistribuer ses rayons à quatre grands saints jésuites qui ont été très soigneusement canonisés à la fin du XVIe siècle, et chacun de ces saints ayant pour boulot une partie du monde. Je ne vous cite que l'Europe, bien sûr, puisque c'est celle qui nous intéresse ce matin, mais vous avez vraiment un programme de missionnaire, hein, et qui est un missionnaire à double sens, c'est-à-dire que non seulement, bien sûr, ils vont à la cour des Ming au XVIe, XVIIe siècle, chez les Chinois, etc., dans toutes les réductions au Brésil, enfin on a des missions jésuites partout, mais en même temps, ce sont eux qui vont largement contribuer à construire le monde, y compris d'ailleurs par les collèges de jésuites, et donc y compris par la géographie. Ce qui fait que les parties du monde doivent pas mal à la pédagogie jésuite. Bon. Et on a au XIXe siècle toutes ces parties du monde. Alors là, j'ai aussi une collection assez importante d'images sur les parties du monde. Je me suis contenté de citer celle qui est tout près de mon bureau à Paris, qui est la fontaine de l'Observatoire, qui est sur le méridien de Paris, hein, bien sûr. Mais je serai assez... La liste est très longue, hein, des figures, qui relèvent plutôt des chambres de commerce, des hôtels internationaux, des douanes, etc., où vous avez cette représentation des parties du monde. Donc on a abouti à une banalisation et une laïcisation de ce genre de choses. Diffusion dans le monde, hein, je vous signale que les découpages mondiaux et les modes de représentation, là c'est un paravent japonais du XVIIe siècle, on a cette diffusion de ces découpages du monde, la pensée européenne va être utilisée ailleurs dans le monde et naturalisée de la même façon. Juste un tout petit mot pour dire pourquoi on a fait une cinquième partie du monde au XIXe siècle. Eh bien, pour cela... je vous laisse le paravent un instant, pendant que je raconte cette histoire, il faut remonter au XVIIe, XVIIIe, et justement penser à la conceptualisation du mot continent. Alors, cette conceptualisation du mot continent est à placer dans la construction de la pensée intellectuelle savante européenne, qui est une pensée classificatoire. C'est le discours de la méthode, hein, décomposer en autant de parties que l'on peut la penser pour en faire des choses les plus élémentaires possibles. Ce découpage, ça aboutit à tous les systèmes de classification, la plus connue étant celle de Linné. Pour les géographes, on pensera plus facilement à la géologie, hein, qui naît au XVIIIe avec une pensée de classement des roches, qui va devenir une chronologie. Les historiens ont également au XVIIIe le moment où on conceptualise Antiquité, Moyen-Âge et temps moderne, même si ça remonte bien sûr aux humanistes de la Renaissance. Renaissance ou Moyen-Âge étant des mots justement beaucoup plus anciens, beaucoup plus récents, je veux dire, et pensés au XVIIIe, XIXe, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va découper aussi les lieux pour les classer. Donc, ce qu'on appelait au XVIIe, c'est d'abord sur un adjectif au XVIIe, des terres continentes, des terres en continu, je vous ai dit. Eh bien, au XVIIIe, ça devient un substantif, en particulier dans l'encyclopédie, qui est une des premières à mettre un article avec le mot « continent ». Et donc, le mot continent apparaît comme, justement, ce qui s'appelait plutôt des parties du monde jusque-là. Et ces continents sont des catégories dans lesquelles, les catégories majeures, hein, les ordres, si vous voulez, de la pensée des plantes et des animaux, dans lesquelles on va ranger les lieux. Et ces continents, on va donc en tracer des limites, qui est une question qu'on ne s'était absolument pas posée jusque-là. Il n'y avait pas question de limites, je vous ai dit, c'est des directions, hein, des angles, les parties du monde, ce ne sont absolument pas des éléments, des petites boîtes avec une limite linéaire sur les cartes, je reviendrai là-dessus, cette cartographie est essentielle, où on va décider que, par exemple, Malte est en Europe et non pas en Afrique, ce qui est évidemment tout à fait discutable, pour ne pas parler de Chypre, mais l'Islande aussi, hein, est en Europe et non pas en Amérique, les Canaries, etc. Donc vous avez des choix qui sont évidemment des choix qu'on peut considérer quasiment comme impérialistes, hein, mais qui sont des choix culturels des Européens à ce moment-là, mais qui sont dans cette nécessité de classer nos parties et nos catégories, d'où d'avoir des limites décidées. Donc c'est seulement au XVIIIe en particulier qu'on va tracer la limite entre l'Europe et l'Asie. Et cette limite, jusque-là, était dans un flou absolu qui s'appuyait plus ou moins sur un cours d'eau. Donc tous y sont passés dans une tradition qu'on peut faire remonter à l'Antiquité, mais s'il n'a pas de sens, hein, à ce moment-là, c'est le Dniepr qui était le plus utilisé, mais le Don, la Vistule, ont été fréquemment utilisés. Montesquieu utilise la Volga, mais ça, tout ça n'a pas énormément d'importance jusqu'au milieu du XVIIIe. Et finalement, on va choisir l'Oural. Alors, ce choix de l'Oural est un coup de force géopolitique de la part de la monarchie russe. En deux mots, la monarchie russe du XVIIIe, comme on dit, tente d'insérer la Russie dans le concert des nations, c'est-à-dire, si vous préférez, de faire rentrer la Russie en Europe. C'est, en gros, géopolitiquement, c'est ça. C'est la politique de Pierre le Grand, la création de Saint-Pétersbourg, etc. Catherine, évidemment, continue cette politique, et le conseiller intellectuel, entre autres cartographe de Pierre le Grand et Catherine, s'appelle Tatitchev, va choisir quelque chose que des officiers russes avaient déjà utilisé dans leur vision de conquête, qui était l'Oural comme limite de la Russie. En essayant de repousser donc le plus à l'est possible. Hein. Plus il y a de Russie en Europe, plus effectivement ça légitime la politique. Donc on peut quand même pas aller jusqu'au Pacifique ou même simplement l'Ob ou l'Alena. Donc l'Oural finalement semble une option assez intéressante qui n'était pas gagnée. Simplement Catherine était très amie avec Diderot. Et Diderot va faire ce choix dans l'encyclopédie pour des questions de sympathie, si vous voulez, de lien avec la Russie. L'encyclopédie va pendant pas mal de temps faire autorité, et en particulier autorité en matière scolaire. C'est à la fin du XVIIIe quand se met en place véritablement une réflexion pédagogique. Petzalozzi, enfin je suis pas expert, mais il doit y avoir beaucoup plus compétent que moi là-dessus. En tout cas, où se met en place du matériel de géographie, les premières formes de manuels, les premières cartes murales, par exemple, qui sont en grande partie d'ailleurs dérivées de l'héritage jésuite. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va avoir la limite de l'Europe à l'Oural, sur les tracés précisément à l'intérieur de la Méditerranée avec les inclusions ou exclusions d'îles, etc. Donc, vous avez cette induration qui fait qu'à partir du 19e, on apprend à l'école les limites de l'Europe, qu'elles ne sont pas discutées, qu'elles deviennent un fait naturel, un fait géographique, même si, bien sûr, on sait que l'Oural, on parle éventuellement d'Eurasie, ce qui peut avoir un sens géopolitique particulier dans le monde russe, mais c'est pas directement notre sujet. Donc, au 19e, on a néanmoins un problème, c'est qu'il y a un certain nombre de lieux qu'on sait pas où caser. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles du Pacifique. Alors, on va réutiliser un héritage antique qui est les antipodes, qui est tout simplement le contrepoids. C'est-à-dire que dans la physique aristotélicienne, où il y a du haut et du bas dans l'univers, qui est en gros valable jusqu'à la fin du XVIIe dans la pensée intellectuelle européenne, la Terre, pour être la tête en haut, a besoin d'un contrepoids. Il faut qu'il y ait plus de Terre dans l'hémisphère sud. Donc pendant très longtemps, là la carte d'Ortelius est très claire, mais c'est à peu près valable sur toutes les cartes jusqu'au début du XVIIIe, vous avez cet énorme continent austral, ces terres antipodiques, qui sont logiques, c'est une déduction logique. Alors, ce qui signifie qu'au XVIIIe, on abandonne cela dans la cartographie, non pas parce qu'il y a des voyages qui nous prouvent que c'est sur toute l'océan, ce qui est vrai, bien sûr, mais d'abord parce que on est dans une physique newtonienne à ce moment-là, et qu'on sait que le bas, c'est le centre de la Terre, c'est pas du bas dans l'univers, donc on n'a plus besoin du contrepoids pour penser la Terre dans le système planétaire. Conclusion de cette histoire, l'Europe, c'est uniquement un processus historique, qui est une pensée de notre ère de civilisation qui est historiquement la chrétienté latine, j'y vais brutalement, mais fondamentalement c'est ça, c'est tel que les pères de l'Église, alors au départ, avec une floue et une ambiguïté sur la statue de la chrétienté grecque, ultérieurement de la Russie, on vient de le voir, mais on a évidemment une coupure qui se fait par rapport au monde musulman, donc la Méditerranée devient au Moyen-Âge effectivement une limite, mais est-ce que c'est une limite géopolitique? Personnellement, je n'écrirai jamais, par exemple, que l'Andalousie du XIIe siècle est en Europe. Ça, ce qui fait que beaucoup de discours idéologiques aujourd'hui qui utilisent, et ce sont des choses fort sympathiques que je ne désapprouverai évidemment pas, mais utilisent évidemment l'Andalousie comme une Europe qui serait tolérante. C'est plutôt l'inverse. Vous avez fondamentalement une pensée de l'ici, simplement, on va le voir dans la deuxième partie, qui va être nécessairement plus brève, l'Europe est en expansion. Et donc, on va avoir des limites qui vont bouger jusqu'à ce qu'on les fixe officiellement au 18e, mais à ce moment-là, on colonise depuis déjà un certain temps ailleurs. Donc, vous avez un ailleurs, et cet ailleurs, il est dans une tradition antique, des angles. Vous avez un ailleurs à l'est, c'est l'Asie, un ailleurs au sud, c'est l'Afrique, un ailleurs à l'ouest, ça devient l'Amérique. Il n'y a pas d'ailleurs au nord, parce qu'on atteint le nord. Et puis, je viens de vous classer l'Océanie comme le reliquat, la voiture balai, hein, dans lequel on a mis les lieux qu'on ne savait pas où mettre. Océanie étant lui-même un mot qui est absurde, hein, pour découper un continent. Donc, parmi les cinq parties du monde, il y en a une plus quatre. Ah, et il y en a une qui nous intéresse ici particulièrement, qui est l'Europe. C'est une géographie, une pensée de l'ici, du nous, par rapport à l'ailleurs, aux autres. Ah, qu'on a à ce moment-là classé et qu'on a de ce fait inventé. C'est pas l'objet ce matin, mais la notion d'Asie est une absurdité. Mais aussi, contrairement à ce qu'on croit, car c'est celle qu'on a le plus enduré, la notion d'Afrique, qui est une pensée totalement européenne, une création de l'extérieur pour les Africains. Mais on n'est pas dans une journée Afrique, donc je vais pas développer ça. Alors, vous lirez un texte que je trouve passionnant, qui est un texte qui justifie le classement des collections du musée du Quai Branly, en rupture avec une pensée par période, une pensée évolutionniste, une galerie d'évolution, qui est le musée de l'homme. Puisqu'on ne peut plus penser comme ça dans la fin du XXe siècle, on est en postmodernité intellectuelle, eh bien, on utilise ce qui semble neutre, c'est-à-dire le musée s'appelle le musée des arts d'Océanie, d'Asie, des Amériques et d'Afrique, ou dans un autre ordre d'ailleurs, peu importe, c'est-à-dire qu'on a pris quelque chose qui semble un découpage neutre, dans lequel on va avoir des aires géographiques. Voilà. Je pense exactement la même chose de Nord-Sud, hein, par rapport à développer, sous-développer. Hein. C'est exactement, on fait de l'espace plutôt que du temps, parce que l'espace, c'est apparemment est un fait naturel, hein, un fait de nature, pour parler brutalement, hein, ce mensonge idéologique de la géographie qui, en n'apparaissant justement pas théoricienne et au contraire naturalisante, fait passer d'énormes messages idéologiques inconscients. La notion d'Europe en étant un, mais justement, et remarquez que le musée du Quai Branly a exclu l'Europe, chose amusante, là on est vraiment dans le nous par rapport à l'ailleurs, pour des raisons pratiques, la profondeur historique de la documentation déséquilibrerait l'ensemble. Bon, sans commentaire. Bien, même chose pour se voir sur le site. J'ai mis cette citation de Todorov, hein, qui est en préface de Saïd, sur la notion de construction de l'altère de l'autre, hein, qui est tout à fait intéressante. Alors, maintenant, revenons à l'Europe. Je veux juste développer une idée. L'Europe, c'est un monde... territoire, mais je ne vais pas gloser sur ce mot, polycentrique. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans la dynamique de l'histoire européenne et justement dans la construction liée à ce qui est quelque chose de récent, hein, qui date au plus tôt du milieu du XVIIe siècle, de l'État-nation, justement comme figure géographique qui est une pièce de puzzle, c'est-à-dire quelque chose où tout est homogène à l'intérieur et avec une limite nette qui s'emboîte dans les limites des autres pièces voisines. Bon, alors la fragmentation de l'Europe, ça c'est une carte que Michel Fouché avait fait qui représente toutes les frontières qu'on a pu tracer en Europe. Alors évidemment, on voit le plat de nouilles que ça peut représenter, même si cette notion de frontière linéaire projetée dans le passé est plus ou moins discutable. Mais je vais partir d'un petit raisonnement élémentaire, c'est que pour faire du Braudel, je vais opposer empire, il dit empire monde, Braudel, à ce qu'il appelle économie monde, que moi je vais appeler monde polycentrique, c'est-à-dire des mondes, si on prend une échelle géographique minimale, c'est-à-dire deux niveaux, ce que représente la première élément, vous avez un ensemble. Vous voyez, par exemple, ça peut être l'Europe avec les pays, hein, qui sont à l'intérieur de l'Europe. Eh bien, vous pouvez avoir des configurations géographiques où l'ensemble est beaucoup plus important et les sous-ensembles sont nettement effacés ou dominés. C'est ce qu'on peut appeler un empire. Donc, prenez la Gaule dans le monde romain, par exemple. Et vous avez des configurations géographiques inverses où les sous-ensembles sont beaucoup plus nets et visibles et l'ensemble global est beaucoup moins évident, beaucoup plus fluide. Ce qu'on peut appeler un monde polycentrique ou une économie monde. Et l'Europe est évidemment l'archétype de l'économie monde, même s'il y en a eu d'autres et on peut en lire d'autres. Et le monde aujourd'hui peut se lire comme une économie monde. Bon, alors, une carte rapide de l'Empire carolingien pour dire deux choses. Premièrement, si tant est que ce soit un monde unitaire, et même si c'était plus son discours idéologique en reprenant le mot « imperium », vous avez... une construction d'une Europe dont on voit d'ailleurs que la taille est relativement restreinte à ce moment-là et auquel il faudra ajouter une pièce qui est européenne mais n'est pas dans le monde carolingien qui est les îles britanniques, enfin les fragments, les différents royaumes qu'il y avait dans les îles britanniques. Vous avez là quelque chose qui est le dernier épisode avant le traité de Rome d'unité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des tentatives impérialistes d'unité européenne, hein, la France a beaucoup donné, mais vous avez jamais, ça n'a jamais marché, parce que dans un monde polycentrique, il y a toujours des logiques de coalition qui fait que le plus fort essaye de construire l'unité à son profit et se heurte à la somme des autres, qui est nettement supérieure aux compétences du plus fort, donc Louis XIV ou Napoléon ou d'autres, hein, bien sûr, il n'y a pas que des Français échouent. Donc vous avez un monde qui est fondamentalement un monde fragmenté. Pour ces 11 siècles de polycentrisme, j'ai commencé par une figure du monde en l'an 1000, dont l'Europe peut se localiser de ce type-là, si vous considérez que la chrétienté orthodoxe, qui n'est pas d'ailleurs en 11e siècle, commence au sens strict, mais disons le monde grec, c'est la limite, je l'ai un peu poussé hein, du côté latin, et je l'ai laissé ouverte sur l'Atlantique, hein, puisqu'on est à l'époque des voyages vikings. Mais vous avez quelque chose qui va être en expansion, et à partir de là, on a une logique. J'ai pris ces cartes dans l'Atlas du Bi. C'est peut-être parce que je travaille chez Larousse. Donc, vous avez une Europe qui s'étend. Et on a une logique que je vais vous affirmer comme ça, parce qu'il est 10 ans moins 5, donc ce sera brutal. Vous avez une logique qui est une logique de fractionnement de l'Europe, qui est en même temps une logique de diffusion. C'est-à-dire que c'est un couple intellectuel, ce que j'ai appelé rapidement un système diffusion-fractionnement, plus un espace de société s'étend, plus les distances sont grandes, donc plus il a tendance à se fractionner, mais plus il se fractionne, plus il est mobile, et plus il a la possibilité de s'étendre. S'il n'y a pas des conditions géopolitiques de niveau supérieur qui les condamnent à s'unir, ce qui est les logiques impériales chinoises d'ailleurs, eh bien cette logique peut durer très longtemps, et c'est exactement ce qui se produit en Europe. Parce que c'est un angle relativement protégé à l'intérieur de l'ancien monde, qui est moins soumis à des pressions extérieures, et de ce fait, à la différence de la Chine, hein, et qui de ce fait a cette possibilité de rester fragmenté. C'est essentiel pour comprendre le rôle que l'Europe joue à partir du XVe siècle pour construire le niveau mondial, hein, c'est-à-dire pour tisser ce monde. De fait, c'est-à-dire le fait que le monde soit européen, hein, que l'une des questions justement fait que l'Europe aujourd'hui c'est aussi le monde. Vous avez cette dynamique qui se produit, je ne vais pas rentrer dans l'ensemble, on pense bien sûr aux croisades dont les grandes découvertes sont une forme de continuation dans une large mesure, mais il faut penser à ce qu'on a trop réduit au Drang Narosten, hein, c'est-à-dire à cette diffusion de l'Europe sur le monde slave, à cette intégration du monde slave. Il y a également l'intégration du monde viking, hein, qui fait partie de cette expansion de l'Europe, qui veut dire d'ailleurs très, très concrètement à l'époque la christianisation. Alors, pour prendre des espaces européens, bon, je vais vous en passer. Ça, c'est comme marqueur de l'européanité, hein, c'est l'architecture romane. Vous pouvez prendre le gothique, hein, c'est très net, hein, comme marqueur d'extension de l'Europe. Et je vais juste insister sur un point, ce qu'on appelle couramment la banane bleue, en hommage à mon directeur de thèse. Vous avez, qui n'a jamais d'ailleurs utilisé cette expression, vous avez ce tissu dense, cette mégalopole, enfin ce noyau de ville de Londres à l'Italie du Nord, qui est le cœur économique de l'Europe, qu'on a souvent formalisé sous forme de villes différentes, et qu'il est depuis au moins le 11e, 12e siècle. Alors, cet axe entre Italie et Flandre, si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est effectivement un cœur de l'Europe qui va devenir un cœur du monde à partir du XVIe siècle et qui le reste, j'étais jusqu'à Londres, hein, donc qui le reste jusqu'au début du XXe, et qu'il est dans l'un des trois pôles de la dite triade aujourd'hui. Et cet élément est typiquement européen, et ça explique à mon avis très largement, faut le comprendre dans le processus de fractionnement et de diffusion que j'ai évoqué il y a un instant, car c'est un monde de petits états, de tout petits états, où l'état est faible et où les marchands sont forts. hein, c'est-à-dire des lieux géographiques, des configurations géographiques de cité-état où les marchands sont maîtres chez eux. Si pour aller vite, hein, vu l'heure, c'est l'espace du capitalisme qui est naissant à ce moment-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des tas de formes de capitalisme qui ont pu exister ailleurs, mais un domaine où la dimension économique va s'autonomiser, permettra d'être pensé comme un fait autonome au XVIIIe siècle d'ailleurs, et ce qui est important dans l'histoire des sciences, qui est un monde depuis les villes italiennes, un monde typiquement fractionné, les cités flamandes, même si elles ont des autorités théoriques, elles sont très, ces cités sont quasi indépendantes, les principaux terrénales, les cantons suisses, etc. Vous avez ce monde fractionné qui est le contraire justement d'une logique impériale. C'est-à-dire que c'est de l'échelle géographique, hein, qui bouge tout le temps. C'est pas stable historiquement, mais c'est très dynamique. Et ça ne peut se produire que dans un monde polycentrique. Évidemment, dans un monde impérial, c'est réduit à l'autorité centrale, c'est utilisé par le pouvoir central. Ce qui explique d'ailleurs, là j'ai fait un zoom, c'est évidemment la partie la plus occidentale de réseau de l'ancien monde, hein, de la route de la soie, de la route des épices. Ça prend des formes variables, et en particulier ça a tendance à se décaler vers l'est pour une raison très simple, c'est qu'entre l'Italie et les Flandres, voilà notre axe européen, vous avez une poussée qui est celle d'un territoire de type impérial, à un niveau inférieur, qui est l'espace français. Alors pourquoi la France a cette configuration impériale, je ne vais pas le développer maintenant, je vais le prendre comme un fait. Ce qui évidemment nous donne, voyez, cette configuration de forme de banane qui est liée à cette poussée. Alors c'est bien parce qu'on est dans un monde polycentrique. Chaque fois, on le voit très très bien, c'est très une histoire tout à fait concrète qui marche d'ailleurs en partie pour Lyon, qui marche très bien pour Dijon, Besançon, Metz, Strasbourg, enfin pour toutes ces villes qui ont été des villes fondamentalement de marchands et qui ont été à un moment ou un de l'histoire saisies par le pouvoir royal français qui en a fait des villes royales. Alors ça se voit concrètement dans des décalages entre les villes d'État et les villes de commerce. Lyon, justement, n'est pas une ville de relais du pouvoir royal, mais on peut avoir une succession chronologique. Ça se voit dans le bâti, dans notre vie de touriste, hein, les types de bâtiments qu'on va voir à Dijon, c'est tout à fait net, entre l'architecture du XVIIe, très royale, et l'architecture du XVe, très marchande. Et c'est vraiment pas le même tissu urbain que l'on a. On a un tissu italien dans un cas et un tissu parisien, si vous voulez, ou versaillais dans l'autre. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais vous avez effectivement le fait que les marchands aient pu rester maîtres chez eux en se déplaçant. Enfin, c'est pas les marchands qui sont déplacés, c'est des courants en fait commerciaux qui se sont déplacés pour fuir le pouvoir d'État, c'est-à-dire la réglementation, les impôts, la fiscalité, etc. Enfin, tout ce que les marchands n'aiment pas. Et donc, pour être dans un monde polycentrique qui était beaucoup plus du côté empire que du côté royaume, le Saint-Empire étant évidemment beaucoup plus fragmenté l'espace français. Bon, donc on est bien dans ce monde polycentrique, hein, vous voyez, si on développe ce phénomène, sachant qu'il y a des liaisons, que ça correspond encore aujourd'hui à des structures de politiques qui sont différentes en Europe, bon, mais je ne vais pas développer ça. Et surtout, je voudrais insister sur un fait, c'est que, d'ailleurs, les profs d'histoire géo qui sont là doivent bien penser, on a, pour citer un fait bien évident, quand on fait, on parle du 19e siècle, on n'en parle plus beaucoup, mais enfin bon, quand on enseigne sur le 19e siècle, on traite deux chapitres totalement séparés qui sont en fait deux niveaux géographiques, deux échelles, si vous préférez, distinctes. Le mouvement des nationalités, d'une part, qui est la mise en place des pièces du puzzle polycentrique des États-nations, et la révolution industrielle, qui est la mise en place d'un espace économique européen et par les colonisations mondiales, qui est de niveau supérieur, mais on les traite comme deux choses totalement différentes. Or, il s'agit d'un système. Les deux font la paire. C'est-à-dire que vous avez, ce que j'ai développé dans un monde polycentrique, l'idée que vous aviez un espace d'échange, hein, où bien sûr on va réduire ces distances à coup de progrès technique et de connaissances géographiques. Donc un espace d'échange se développe de plus en plus et simultanément vous avez, pour aller vite, je dirais des réactions identitaires, vous avez des constructions de création de ces pièces de puzzle qui sont les États-nations, ce qu'on appelle souvent le monde westphalien, hein, parce que passé 1648, passé la grande période de guerre où l'identité était d'abord religieuse, on se tapait dessus essentiellement entre anglicans, protestants, catholiques, beaucoup plus qu'entre hollandais, français, anglais, allemands, hein, c'était pas une vision nationale, et à l'autre bout, on a 1914, c'est-à-dire ce que, justement, je vous signale que le mot de Shoah a été utilisé d'abord pour le fait de ce grand désespoir des communautés juives européennes que des Allemands tiraient, pardon, que des Juifs tiraient sur d'autres Juifs. C'est-à-dire des Juifs allemands étaient d'abord allemands et des Juifs français étaient d'abord français. Et qu'ils ont été, dans les deux cas, de, quoi qu'on ait dit évidemment sur Dreyfus, de très bons patriotes, tout autant que les catholiques ou les protestants, et que donc l'essentiel était la nationalité. Vous voyez le renversement que c'est par rapport au XVIe siècle, hein, ça. Et donc cette phase de construction des nations dont la France est l'archétype, hein, sans doute le pionnier, mais on voit bien de ses origines médiévales pourquoi c'est la France. Je vous renvoie au grand texte, hein, ça c'est un grand livre de géographie, le travail de Nordman sur la construction des frontières françaises, car la construction d'une frontière qui devient linéaire, hein, au départ on n'a pas du tout des frontières linéaires, on a des imbrications complexes, parce que ce qui compte c'est les appartenances d'homme à homme, c'est pas tellement les appartenances territoriales. Ce qui définit la société, c'est pas une limite entre des pièces de territoire, de puzzle, c'est des appartenances qui peuvent être multiples. On peut relever de l'évêque de Liège, du prince de Bouillon et du roi de France simultanément. Eh bien, cette construction linéaire, c'est une invention qui va être justement dont la France est le laboratoire. Alors, peu importe, je ne vais pas développer ce phénomène, mais qui va se développer au XIXe siècle. Je vous renvoie au très joli livre d'Anne-Marie Thiès, hein, sur la construction des nationalités, où on va inventer l'homogénéité à l'intérieur des pièces du puzzle, en particulier l'homogénéité linguistique. Donc, on va fabriquer des langues à partir de, disons, patois, multiples, complexes, divers, et on va appeler ça du serbo-croate, du tchèque, du lituanien, ce que la France a fait depuis le XVIe siècle, d'ailleurs, hein, mais qui a été, là, créé quasiment suivant un modèle, d'ailleurs, un patron, dans lequel les frères Grimm jouent un grand rôle, un patron linguistique. Et ce patron linguistique devient aussi un patron des mœurs, hein, des genres de vie, sur l'alimentation, le costume, l'habitation, hein, le paysage. On va avoir cette homogénéisation systématique, hein, de cette idée de nation et de ces oppositions de nation. Ça commence par des relevés de folklore, si vous préférez, de chansons ou de bons mots paysans, et ça finit dans les tranchées de la guerre de 14, hein, cette histoire. Donc vous avez là cette construction de ce second niveau géographique qui va être constamment en tension avec ce niveau plus global, hein, qui est celui de l'ensemble de l'Europe. Donc, et j'ai pas pu mettre de carte de la révolution industrielle car c'est une carte rare. Hein, je n'ai pas trouvé la carte qui me plaisait bien pour l'Europe. Vous avez constamment cette tension entre ce niveau global qui est celui de l'Europe, qui était déjà un niveau en partie économique médiéval, mais qui était surtout un niveau religieux et culturel. C'était celui de l'extension du parler latin, si vous voulez. Ça, la langue signifie un espace. Évidemment, c'est pas tout le monde qui parlait latin, c'était les classes dominantes. Et vous avez d'autre part la construction de ces pièces d'un puzzle et la tension constante entre ces deux. Ce que je vous décris sur l'Europe du 19e, ça se prête très bien éventuellement au monde actuel. Mais ça veut dire que l'Europe a construit la manière de structurer la géographie mondiale à partir de sa propre logique. L'un des grands acteurs, l'un des grands moments de cette construction étant au XXe siècle, les décolonisations. C'est-à-dire la diffusion du modèle de l'État-nation, qui est plus État que nation d'ailleurs, dans ces cas-là, puisque évidemment cette construction identitaire n'est pas facile. Et s'il y en a que ça intéresse sur le plan de la pédagogie, moi je m'intéresse particulièrement à la construction des identités, Pascal est une complice avec moi, là, à la construction des identités par l'histoire géo, dans les pays décolonisés. Comment on a un discours national qui se construit, hein, et que l'école reproduit comme elle a pu le faire au XIXe siècle, puisque l'enseignement de l'histoire géo est d'abord de la production du nous par rapport à la production de l'autre. Donc, moi, je rentre pas dans le détail de Nordman pour montrer comment on a fabriqué les choses et comment ça amène à une autre pensée de la géographie, hein, à ce moment-là. Donc, le rôle de la géographie scolaire, dans la page où je vous avais montré la carte sur l'Europe, hein, au centre du monde, c'est celle où on a l'hexagone, exactement. Vous voyez, c'est le moment où apparaît l'hexagone, hein, c'est le plus ancien que je connaisse, c'est le plus ancien, je suis preneur, le moment où on invente ce genre de truc, qui est un objet purement scolaire. Bon, alors, oui, j'avais mis une figure qui mérite d'ailleurs longuement commentaire. Au niveau national, c'est au moment où on homogénéise en spécialisant les régions, sur le plan économique et en les homogénéisant sur le plan culturel, c'est l'infranational, que l'on va avoir exactement la même chose sur le plan européen. On va avoir une homogénéité, les pièces du puzzle européen deviennent spécialisées sur le plan économique, donc on a à la fois des constructions de territoire et des constructions, c'est-à-dire des mondes d'identité, si vous préférez, et des logiques spatiales qui sont des mondes d'échange, et la tension entre les deux, ça nous donne effectivement une vision de l'Europe dans sa complexité, dont qui nous semble banale parce que cette complexité a été projetée dans le monde. Alors j'ai pas le temps de faire de l'altérité, c'est-à-dire de vous montrer comment l'Empire turc c'était pas ça, ou l'Empire chinois c'était pas ça, même si déjà utiliser les mots empire, c'est-à-dire un mot latin que les Européens ont utilisé et conceptualisé, c'est déjà une forme d'impérialisme et donc de limitation intellectuelle par rapport à des espaces qui sont autrement. Alors, si vous m'accordez quelques minutes, parce que j'ai débordé là. Bon, alors ça sera très rapide et vous pourrez le regarder sur le site. Je voulais vous citer un rapport fait pour l'Union européenne, dont le grand maître d'œuvre est mon collègue Claude Graland, qui a répondu à une commande. Mais comment peut-on penser l'Europe dans le monde, hein, l'espace européen, ce que signifie le sigle, l'acronyme ESPON, dans le monde. Eh bien, on peut le penser comme un continent, alors il a mis un parc à bestiaux d'ailleurs, comme un centre d'un système dynamique, c'est en gros la triade si vous voulez, comme un réseau, comme une pièce et un nœud majeur dans le réseau mondial, hein, et d'autre part comme une région du monde, hein, dans un système mondial dont elle est un élément spécialisé, et à ce moment-là les limites sont floues. De l'Europe. Et c'est ce point-là qui me semblait le plus intéressant. Donc, j'ai repris la carte de Reykjavik du monde diplomatique avec l'Europe forteresse, hein, la forteresse Europe, et les morts, les ronds, c'est ça, hein, les morts des gens qui tentent de rentrer, les immigrants clandestins qui tentent de rentrer en Europe. Là, on a en quoi l'histoire des pièces du puzzle, c'est pas une histoire purement intellectuelle, c'est une histoire effectivement de limites, de bordures, de frontières et de fait de conflits d'une manière ou d'une autre, hein, on peut le voir ainsi. Vous avez, je reprends pas le fait qu'on soit pas un élément de nature, vous avez tout un calcul scientifique sur tous les points du monde sont calculés en terre émergée, ceux qui sont les plus centraux, c'est-à-dire si dans un rayon de, je crois c'est 1000 kilomètres, tout point qui dans un rayon de 1000 kilomètres a entièrement d'autres terres émergées, c'est ceux qui sont en marron foncé, et évidemment tous ceux qui sont bleus c'est l'inverse, et puis vous avez des situations intermédiaires. Donc là on a une vision objective du découpage du monde. Et effectivement, on voit que l'Asie, l'Afrique-Asie, hein, pas l'Eurafrique, mais l'Afrique-Asie, est un même ensemble. Alors, je vais pas, bon, je vous passe les découpages, là, j'ai plus le temps. Vous pourrez les revoir. Le fait de le voir en centre et en périphérie, c'est pas essentiel, mais je le replace dans l'aspect historique que j'ai évoqué tout à l'heure. L'Europe ayant colonisé le monde, alors par la première colonisation, c'est-à-dire en gros l'Amérique de manière très ancienne, mais par la seconde colonisation fin 19e, c'est très récent et c'est très court, hein, fin 19e, mi-20e, le reste du monde, l'Afrique et une bonne partie de l'Asie en particulier, a exporté son modèle et sa grille de lecture, ce qui nous rend d'autant plus difficile la lecture de la spécificité européenne que j'ai essayé de voir dans la deuxième partie. Si on imaginait que le monde, ce qu'il a bien failli être, ait été chinois à partir du 15e siècle, on aurait eu une autre construction du monde. On n'aurait évidemment pas eu le découpage Europe-Afrique-Asie. L'Asie n'aurait pas eu. On aurait eu le monde chinois et le reste, très certainement. Mais, et donc, une Amérique différente. L'Amérique, c'est le seul truc qui peut être pensé, effectivement, logiquement, dans différents points de vue. Mais certainement pas l'Europe, on n'aurait certainement pas eu une pensée de l'Europe. Pour les Chinois, les gens du livre, musulmans et européens, c'est pareil. Chrétien au sens européen, c'est absolument le même monde de monothéistes. Donc, c'est vrai qu'avec un peu de recul, hein. Donc, vous avez tout l'Occident, tout l'Ouest de l'Ancien Monde qui serait dans une vision chinoise, les gens des monothéismes, et puis vous avez effectivement le monde chinois, le monde indien, on a un découpage qui serait plutôt de ce type-là. Et d'autre part, les structurations, celles autour de l'État-nation, la disjonction qui est évidemment celle d'un espace capitaliste entre un espace économique mondial d'une part et un niveau de Nations Unies, comme on dit, qui sont plutôt un niveau d'État, le puzzle des États, l'international. Cette tension entre les deux qui structure notre organisation de l'humanité aujourd'hui n'aurait pas du tout pris cette forme-là. Donc ce qui nous semble banal est en fait de l'Européen projeté, d'où ça nous rend difficile la pensée de la spécificité européenne. Voilà, comme exemple de l'européanisation du monde, j'avais mis une carte des langues, hein, évidemment, parce que les langues officielles, en tout cas, sont évidemment, et la langue mondiale, bien sûr, l'anglais, sont fortement européens. La position dans un réseau, ça va de soi, donc vous pourrez regarder le classement des aéroports. C'est très amusant de voir, les Européens sont incontestablement plus internationaux que les autres. Ça, c'est par rapport à une région asiatique, ou bien sûr à l'Amérique du Nord, qui est très introvertie, et de le voir comme une pièce, alors là, Mes petits camarades sont assez militants sur l'euro-région qui comprend la Méditerranée et une partie de l'Europe orientale. Les limites de l'Europe sont progressives, floues. On le voit d'ailleurs très bien dans la projection de cette limite géopolitique de la barrière de l'Europe, la difficulté à rentrer en Europe qui est projetée dans le Sahara maintenant, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique noire. Et on utilise les régimes de l'Afrique du Nord comme la première ligne pour empêcher les migrations en Europe, en déléguant somme toute et en envoyant des conseillers pour que les migrants africains d'Afrique noire soient arrêtés plutôt dans le Sahara. Voilà, donc vous avez ces éléments-là, on peut le voir dans les classements, vous le verrez dans les différents types de classements qui sont faits par rapport aux voisins, au voisinage, en particulier des échanges commerciaux, ce qui fait que le rapport propose différentes versions de la position de l'Europe dans le monde. Le bunker, ça c'est la frontière que j'ai évoquée, c'est le premier élément, l'empire... Le contre-attaque, c'est la stratégie de Lisbonne, c'est-à-dire, mais ça, on voit bien que ça marche pas. Il s'agit de redonner à l'Europe sa position dominante. Hein. La position d'un parmi d'autres, ça c'est la position réticulaire qui est un état de fait quasi aujourd'hui. Et puis une construction régionale qui consiste en gros à avoir un compromis des trois précédents, ce qui est ce que le rapport d'ailleurs prône plus exactement, qui est en gros une forte association avec une partie des pays slaves et surtout une partie des pays méditerranéens jusqu'au Proche-Orient, pas moyenne, au Proche-Orient compris. Voilà, donc toutes les ambiguïtés du degré d'européanité, de l'opposition entre Europe et Occident, hein, c'est évidemment quelque chose qui, je suppose, mérite largement réflexion. Donc, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, et excusez-moi pour les 13 minutes de débordement. Voilà.